filles ensemble.
Nous lisons ensemble dans l'épître de Paul aux Colossiens, dans la parole de Dieu, chapitre 1. Et la lecture commence au verset 24. L'apôtre dit: je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma chair ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons. En avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux, en effet, que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de la Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et aujourd'hui, notre étude et notre méditation va tourner autour du verset 27 et la phrase « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Est-ce que vous savez comment arriver à la maturité chrétienne? Est-ce que vous savez qu'il y a une source particulière que Dieu vous donne pour vous conduire à la maturité chrétienne et à la plénitude chrétienne? Est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose de clé dans ce domaine que chaque chrétien doit savoir et sans lequel il peut utiliser beaucoup de principes et de vérités chrétiennes, mais il va progresser vraiment péniblement? Eh bien, Paul nous donne donc cette réalité, cette vérité centrale qui est nécessaire pour nous dans cette phrase « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». C'est le propriétaire qui change le chauffe-eau. Nous allons espérer qu'il progresse vite. Je vais parler plus fort. Premier point. Il faut parfois mettre les points sur les i concernant la croissance et la maturité, la croissance chrétienne vers la maturité et la plénitude. Il faut parfois mettre les points sur les i. Paul n'est pas en train de parler de son message d'évangélisation quand il dit « Ce que je prêche, le mystère caché de tous les temps, c'est Christ en vous, espérance de la gloire. » D'ailleurs, ce n'est pas son message aux non-chrétiens. Ce n'est pas Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est Christ en dehors de vous, sur la croix du calvaire, Christ crucifié, sur cette croix qui n'est pas en vous, mais qui est là-bas. Christ crucifié, c'est son message aux non-chrétiens, pour les mettre en règle avec Dieu. Mais une fois que nous sommes en règle avec Dieu par le Christ crucifié, nous avons ce problème intérieur, n'est-ce pas? Comment grandir en lui? Comment arriver à toute la maturité, toute la plénitude qui est pour nous en Christ. Et là, le message, le centre du message de Paul envers les saints est Christ en vous, espérance de la gloire. Maintenant, regardez avec moi dans le contexte et voyez comment il indique explicitement: je suis en train de parler de mon message d'édification envers l'Église et non pas mon message d'évangélisation envers le monde. Regardez bien. Verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma chair ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer, à vous l'Église, pas au monde, vous annoncer pleinement la parole de Dieu. C'est-à-dire, il y a une partie qu'on annonce en non-chrétien, mais vous, je dois annoncer pleinement la parole de Dieu. Quelles sont toutes les implications du Christ et de son œuvre de rédemption? Verset 26. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à qui? À ses saints. Dévoilé aux saints. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, espérance de la gloire. Si nous allons plus loin dans le chapitre 2, nous voyons le même accent. Il dit au verset 1, « Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage, c'est-à-dire les chrétiens dans les églises. Mon combat, c'est qu'afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu Christ. » Vous voyez, il est vraiment en train de dire, il est temps de mettre les points sur les i, sur la vérité pour les chrétiens, pour que vous arriviez à la maturité et à la plénitude. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut mettre les points sur les i parfois? Ben, ici, c'est parce que il y a des faux enseignants qui sont entrés dans l'Église, comme dans beaucoup d'Églises évangéliques aujourd'hui, qui sont en train de vous proposer toutes sortes de moyens, parfois farfelus, parfois splendides, pour soi-disant vous amener à la maturité chrétienne. J'avais un étudiant à l'Institut biblique où j'enseigne. On lui avait dit que le moyen par excellence de la sanctification, c'était la délivrance. Et chaque fois qu'il avait un péché récurrent, on lui disait, c'est un démon. C'est le démon de l'orgueil. On va le chasser, on va vous délivrer. Donc, il devait progresser dans la sanctification par coup d'exorcisme, chaque fois. Et donc, il s'est demandé pourquoi ça ne marchait vraiment pas. Mais en tout cas, nous devons apprendre quelle est la voie du Seigneur pour la croissance et la maturation chrétienne. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. La clé pour votre croissance chrétienne vers la maturité et vers la plénitude, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et nous allons prendre un moment pour essayer de comprendre. C'est Paul qui le dit. Il dit, mon souci pour l'Église, c'est de lui annoncer. Et puis il résume la vérité clé en ces quelques mots. Il dit, le mystère caché de tout temps est maintenant dévoilé aux saints. Je le résume, je le comprime dans une demi-phrase. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si nous n'arrivons pas à comprendre cela, nous serons handicapés, n'est-ce pas? Si c'est ça le mystère, si c'est ça que Paul pense que, et sait que nous devons comprendre. Alors, nous allons le prendre petit à petit. D'abord, on va prendre l'espérance de la gloire, d'accord? Alors, gloire, l'espérance de la gloire, gloire, c'est quoi? La gloire, ici, signifie la glorification. Ça veut dire la gloire future. Ça veut dire être complètement ressuscité, glorifié, transformé avec l'immortalité à l'image de Christ et être dans la présence de Dieu lui-même. C'est ça la gloire. Ok? L'espérance de la gloire, c'est quoi? Dans la Bible, le mot espérance ne signifie pas j'espère, mais je ne suis pas sûr. L'espérance est une certitude. D'accord? Donc, l'espérance de la gloire, c'est la certitude que vous allez justement arriver à cette gloire à venir. D'accord? Ok. Donc, l'espérance de la gloire, je peux vous poser la question, est-ce que vous avez l'espérance de la gloire? C'est comme si je vous disais, est-ce que vous avez la certitude d'arriver un jour à la vie éternelle dans sa plénitude? Ça va? C'est rien de plus que cela. Maintenant, Christ en vous. Quand Paul parle de Christ, il parle du Christ ressuscité. Le Christ ressuscité avec sa vie de ressuscité, une vie d'un autre monde maintenant, parce que en tant qu'homme, Jésus avait une vie mortelle à un moment donné, n'est-ce pas? C'est pas ça qui va venir en moi partager avec moi. Quand il est ressuscité, dans son humanité, parce qu'il ne peut partager avec vous que ce qu'il a en tant qu'homme, ok? Vous êtes unis avec Jésus dans son humanité. Okay? Il est le chef, la tête d'une nouvelle race en tant qu'homme. Il est aussi Dieu, mais le point de contact avec vous, c'est son humanité. Ça va? Je vais expliquer un peu plus plus tard. Ne vous en faites pas si vous ne comprenez pas tous les détails. Mais donc, c'est le Christ ressuscité en vous. Et quand il dit « en vous », ça veut dire que par le Saint-Esprit, Jésus-Christ vient habiter dans le croyant. C'est un grand mystère. C'est quelque chose qui, normalement, devrait nous faire trembler. Vous avez vu quand nous avons lu dans le livre de Chroniques que quand Dieu est venu dans le temple, et le temple était rempli de la gloire de Dieu, les sacrificateurs ne pouvaient plus venir là-dedans, n'est-ce pas? Et en s'inclinant, vous êtes devenu un temple du Christ ressuscité. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Maintenant, évidemment, beaucoup de gens comprennent mal ce passage et ils pensent que Christ vit au lieu de moi. Mais non, c'est pas ça que Paul veut dire. Christ vit en moi et secrètement, invisiblement, il vit en moi et par lui, je suis en train de changer. Il anime ma volonté. Il est la vie en moi qui cause, qui produit de nouveaux désirs. Il est la lumière en moi qui m'ouvre les yeux pour comprendre les réalités spirituelles. Il est celui qui m'amène à me lamenter, à me repentir. Tout cela se passe parce qu'il y a un sauveur en moi qui secrètement, dans le tréfonds de moi, œuvre et vit. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Mais la chose principale pour vous de comprendre dans ce point, c'est que la croissance chrétienne, la croissance vers la maturité chrétienne et la plénitude, est un travail interne. D'accord? C'est quelque chose que Dieu fait en vous, par sa présence même en vous. Et ce n'est pas un processus impersonnel, c'est une personne qui vient habiter en vous comme s'il vient occuper une maison. D'accord? Il vient prendre de plus en plus de place dans la chambre de vos affections, dans la chambre de votre pensée, dans la chambre de votre volonté. Il vient se manifester. Il vient remplir votre cœur avec sa sainteté. Pourquoi est-ce que Christ en vous, comme ça, Christ en vous, est l'espérance de la gloire? Pourquoi est-ce que Christ à l'œuvre en toi aujourd'hui te donne la certitude qu'un jour tu auras la gloire dans sa plénitude? Je vais vous donner une petite illustration. Tu es au bord d'un lac un jour et quelqu'un veut te tuer. Excusez-moi pour une telle histoire. Mais cette personne te frappe, te rend complètement inconscient. Mais vraiment, tu as reçu un coup de... je ne sais pas quoi, quel instrument. Mais en fait, tu ne respires même plus. Tu es KO. Et il réalise ça et il dit, je vais l'achever. Il te prend et il te met dans l'eau de du lac, qui n'est pas profond au bord, 40 cm, mais facilement suffisant pour que tu sois complètement submergé. Te voilà allongé, inconscient, ne respirant pas, sous l'eau, tu es dans un tombeau à queue, un tombeau humide. Mais ce que cet homme ne sait pas, c'est que quand il t'a balancé dans le lac, l'impact de tomber dans le lac a secoué ta tête un peu, a secoué ton cerveau un peu, et tout étourdi, tu te réveilles sous l'eau. Et qu'est-ce que tu fais? Parce que tu as commencé à respirer de l'eau avant, dans cet état étourdi, tu te mets assis. Et maintenant, il y a juste ta tête qui est au-dessus de l'eau. D'accord? Tu tousses quelque peu. Tu commences à respirer de l'air, de l'oxygène. Et maintenant, il y a un changement dans ton corps. Parce que pendant cette minute où tu ne respirais pas, où tu respirais de l'eau, ton corps était en train de mourir. Pas d'oxygène, tu es en train de t'en aller. Mais maintenant que la tête est au-dessus de l'eau, la tête te file à toi, le corps, le reste de ton corps, de l'oxygène. Et même si ton corps est encore dans le tombeau à queue, le tombeau humide, le fait que tu as de l'oxygène qui vient de cet autre monde en dehors de l'eau te donne la certitude que je vais sortir. Tout le corps va sortir parce que la tête est sortie. Christ est ressuscité. Christ, dans son humanité, est un homme qui est hors du péché, hors d'un monde de tentation, hors de la mortalité. Il est ressuscité. Il est homme céleste maintenant. Et par le Saint-Esprit, il te file sa vie. Il travaille en toi. Et cela te donne la certitude que là où est mon tête, ma tête, le corps va suivre. N'est-ce pas? La présence de la vie de résurrection en moi maintenant, du Christ ressuscité, est le gage que j'aurai la plénitude de la résurrection un jour. Christ en vous, Christ ressuscité en vous, c'est l'espérance ou la certitude de la gloire. Sur un plan pratique, et c'est le troisième et dernier point ce matin, sur un plan pratique, comment est-ce que le fait de comprendre ce grand mystère, Christ en vous, l'espérance de la gloire, comment est-ce que ça change ta manière d'être conduit vers la maturité chrétienne? Eh bien, je vais vous donner trois ou quatre points pour vous montrer sur un plan pratique qu'est-ce que cela change. Et c'est là que je voulais en venir aujourd'hui. D'abord, comprendre ce mystère de Christ en nous, cela nous délivre de la frustration d'une sanctification en solo. Nous pouvons, en tant que chrétiens, penser que Jésus nous a sauvés de la pénalité du péché sur la croix, mais pour nous délivrer du pouvoir intérieur du péché, il faut que je me débrouille, ou bien un peu avec son aide. Et cela nous amène à avoir une vie chrétienne qui est plus ou moins une tâche impossible, juste un fardeau. Mais si nous comprenons bien que la vie chrétienne est Christ en nous, le ressuscité en nous, de plus en plus, petit à petit, la vie chrétienne ne devient pas une hauteur à laquelle il faut grimper, mais un rocher sur lequel on est tenu. Parce que je ne suis pas le sujet qui doit faire tout le travail, je suis d'abord l'objet en qui on travaille, que Christ travaille. Et à la fin de notre passage, si vous voulez, regardez le verset 29. Paul lui parle de lui-même et son ministère. Et il dit, c'est à cela que je travaille, ok, il travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Ça change tout. C'est pas qu'il n'y a pas de travail dans la vie chrétienne. Christ en vous ne veut pas dire que Christ fait tout et je fais rien pour devenir plus mûr. Il dit, je travaille, mais avec sa puissance qui agit fortement en moi. Ça change notre manière d'envisager la vie chrétienne. Que nous sommes jamais, jamais seuls. Nous sommes jamais le premier acteur, l'acteur principal dans notre sanctification. Nous sommes portés, nous sommes l'objet de son habitation, de son action constante. Et nous pouvons faire appel donc à lui. Et nous devons nous appuyer constamment sur lui et ne rien faire par nos propres forces. Deuxièmement, comprendre le mystère du Christ en nous, cela nous délivrera du piège de chercher ailleurs qu'en Jésus-Christ pour obtenir la croissance chrétienne vers la maturité et la plénitude. Imagine les croyants à Colosse qui disent à Paul, ces nouveaux enseignants qui viennent dans l'église, les faux prophètes, eux ils disent que Christ nous donne le début du salut. Et après cela, il nous faut autre chose. Les visions, les anges, les machins. La réponse de Pierre se trouve dans cette phrase « Christ en vous est la certitude de la gloire ». Parce que les deux sont liés. C'est le début du salut et l'achèvement du salut, n'est-ce pas ? Christ en moi maintenant, Christ en vous maintenant, c'est le début du salut qui m'amène à la gloire qui est Christ pleinement en moi. Donc, je ne commence pas avec Jésus pour passer à autre chose. Au début, le Seigneur me donne Jésus en moi. Et à la glorification, ce sera pleinement Christ en moi qui sera la gloire. Donc, je ne bouge pas de Christ pour aller à autre chose. Dans certaines églises, on parle comme si Jésus c'est le début pour le pardon et puis c'est le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit ne fait rien, selon le Nouveau Testament, sauf me communiquer ce que Christ possède dans son humanité d'homme ressuscité. Il n'y a pas de sainteté humaine, sauf dans la personne ressuscitée du Fils de Dieu. Et c'est de lui que je dois tout recevoir, ou c'est lui qui doit être ma sainteté. Vous savez que vous avez été justifié par une justice exercée par Christ en dehors de vous, dans sa vie parfaite. Il a toujours obéi, il est mort sur la croix. Et cette justice qui est à Christ, à l'homme Jésus, vous a été imputée, mise sur votre compte. C'est comme ça que vous avez été pardonné. La sanctification se passe de la même manière. Christ a formé et forgé en lui-même en tant qu'homme une sainteté parfaite. Écoutez bien, dans sa vie, Jésus, de petit à grand, il a grandi en sagesse et grâce, n'est-ce pas ? Il a obéi, il a forgé et formé dans sa personne une humanité complètement sainte à la résurrection. Il est glorifié de manière à ce que cette humanité est maintenant indemne. Il est hors de la portée de la tentation. Il a une humanité qu'on n'a jamais vue, nous, qui est complètement remplie de Dieu, complètement sainte. Donc, Dieu a forgé cette sainteté en Christ, elle se trouve là. Vous n'avez pas maintenant à forger votre sainteté personnelle. Vous avez à recevoir la sainteté qui a été formée et forgée en Christ et qui vous est communiquée petit à petit par le Saint-Esprit. Je vous donne un autre exemple. Comment est-ce que vous avez eu votre nature pécheresse au début? Est-ce que vous avez formé ça en péchant vous-même? Non. Vous avez reçu une nature pécheresse formée et forgée en dehors de vous par un homme, Adam. Par sa désobéissance, il a formé et forgé une nature humaine pécheresse. Et c'est cette nature qui vous a été communiquée toute faite. Voilà. Et la sanctification se passe comme ça aussi. La sainteté humaine dont vous avez besoin, ce n'est pas quelque chose que vous allez former, forger par des disciplines, par ceci et cela au fil des années, même s'il y a des disciplines. Cette sainteté a déjà été forgée et formée. Elle est en Christ. C'est de lui que vous avez besoin. Vous avez besoin de lui donner la place dans toutes les chambres. OK? Et sa sainteté se manifestera de plus en plus en vous. Un des puritains, théologien puritain, a dit ceci. Nous ne sommes pas du tout appelés à travailler avec Christ, à fabriquer ou à produire cette disposition sainte en nous-mêmes, mais seulement à la recevoir pour nous-mêmes et à l'utiliser dans notre pratique de la vie sainte comme une chose déjà faite et prête pour notre appropriation et expérience. De cette manière, nous avons la communion avec Christ en recevant cette disposition sainte de cœur qui était originairement en lui. Je laisse mijoter cette idée en vous parce que c'est peut-être quelque chose d'étrange, de nouveau. Mais 1 Corinthiens 1:30 nous dit que par le Père, Christ a été fait pour nous justice, sanctification, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc c'est la personne de Christ qui est ma justice devant Dieu. Je suis en règle avec Dieu parce qu'il est en règle avec Dieu et je suis en lui. Et ma sanctification, c'est lui. Ce n'est pas une procédure, c'est sa personne. Il a été sanctifié pour que je le sois. OK, on va aller un peu plus loin. J'espère que ça va être moins compliqué maintenant. Mais ces choses, je dois les planter. Paul dit, c'est un mystère. Les glorieuses richesses de ce mystère. Bien sûr, je vais vous dire quelque chose que vous dites, mais je n'ai jamais pensé à ça. Je n'ai jamais pensé comme ça. Est-ce que ça peut être vrai? C'est énorme, ça. Le prochain point, c'est que comprendre ce mystère de Christ en nous, cela nous donne le bon équilibre entre ce que nous pouvons posséder dans notre vie chrétienne sur terre et ce qui doit arriver dans l'âge à venir. Il y a des choses en Christ qui sont à nous maintenant, et il y a des choses que nous n'aurons que dans l'avenir, quand il viendra. Et cette phrase contient les deux. Christ en vous, ça c'est le maintenant. L'espérance de la gloire à venir, c'est l'avenir, n'est-ce pas? Et cela est très important. Les faux enseignants sont très souvent perfectionnistes. Ils vous disent que vous pouvez vivre, puisque Christ vit en vous, et il est parfait, vous pouvez vivre sans péché maintenant, si vous croyez assez. N'est-ce pas? Vous avez entendu des enseignements perfectionnistes, mais cela est complètement faux. C'est ne pas distinguer entre ce qui est en Christ pour nous maintenant et ce qui est en nous pour l'avenir. Et la tendance dangereuse c'est de voir le présent plutôt que le futur comme le temps de la plénitude du salut. Ça, c'est vraiment très dangereux dans certaines églises. Ils veulent voir le maintenant, le Christ en nous, comme le temps de plénitude de salut, c'est maintenant. Oh, Paul est en train de nous pointer vers l'avenir. Christ en vous, c'est juste le début. La plénitude, le centre de gravité de l'évangile n'est pas ici. C'est la gloire à venir, l'espérance de la gloire. Et c'est pour cela que Paul dit ailleurs que dans nous qui avons les prémices de l'esprit, juste la première partie, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. La nature de notre salut, chers amis, ça fait que nous vivons un peu comme des pauvres gens paumés dans ce monde. On voit d'être réparés, guéris, mais attendant le jour où nous sortirons de ce monde et nous aurons la perfection et la gloire véritable. Nous devons être contents de voir notre perfection chrétienne en Christ. Elle est déjà là en lui, n'est-ce pas? Ce que je vais être, je le vois. C'est complété, c'est achevé, c'est accompli. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Parce que ce qu'il est dans son humanité, je le serai. Il a accompli, non pas parce qu'il en avait besoin, mais pour me le donner, cette humanité parfaite. Et je dois être content avec toutes mes imperfections terribles à regarder Christ glorifié et dire, c'est là mon espérance, c'est dans l'avenir. Mais je vous ai dit que comprendre ce mystère Christ en moi, l'espérance de la gloire, m'aide à avoir le bon équilibre. Le bon équilibre, je viens de vous dire, c'est que le centre de gravité est plus loin. La plénitude est plus loin. La perfection est plus loin, pas ici. Mais attention, le bon équilibre, ce n'est pas d'être ni perfectionniste, je vais tout avoir maintenant, ni être quelqu'un qui se résigne à être médiocre ici-bas. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent « Ah, nous sommes des pauvres pécheurs ici-bas. » Et pour eux, ça veut dire que j'accepte que Christ en moi, ça ne signifie presque rien. Que je pense que la vie chrétienne normale, c'est de refaire les mêmes péchés constamment, c'est d'avoir les mêmes problèmes toujours, les mêmes défauts de caractère, et ne jamais vraiment progresser. Et ça, c'est une fausseté complète. Christ en moi ne peut pas être la certitude de la gloire, sauf si je goûte quelque chose de la gloire déjà ici. Comment est-ce que Christ en moi peut m'assurer que je vais avoir la gloire si ça ne me fait rien ici? Si rien ne se passe dans ma vie ici, j'ai aucune assurance que j'ai le Christ ressuscité en moi maintenant. Aucune. Christ en vous, vous changeant miraculeusement. Mais vraiment, le vrai chrétien en qui Christ est, il change, il progresse, il mûrit, il ne reste pas le même. Alors qu'il compte sur le Christ ressuscité de transformer sa vie. Je tire à la fin. Je dirais juste en parenthèse avant d'aborder le dernier sous-point, c'est que ne vous troublez pas en regardant constamment intérieur, est-ce que le Christ ressuscité me change? Ça, c'est un piège terrible. On regarde en dehors à Christ et secrètement, il travaille en nous au-dedans. D'accord? La vie que je vis maintenant, je vis par la foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui est mort pour moi. Le regard de foi de Paul n'est pas au-dedans. Est-ce que Christ me change maintenant? Mais il est à la croix, qui m'a aimé dans le passé, qui est mort pour moi. J'essaie de ne pas trop penser à moi et ce qui se passe intérieurement. Ça, c'est la pire des choses pour moi. Et aussi, le Christ ressuscité en moi ne s'exprime pas toujours de la manière que je pense. Par exemple, quand je me lamente, quand je me repens, c'est parce que le Christ ressuscité est à l'action en moi. Quand vous allez à une maison, quand on est en train de retaper, est-ce que les travailleurs sont toujours en train de bâtir? Non. Parfois, ils sont en train de détruire. Ils sont à l'œuvre. Ils sont à l'intérieur de la maison. Mais pour retaper, il faut aussi détruire. Et le Christ en moi, il est en train de retaper. Et parfois, ça va pas dans le sens où je pense. Mais si je suis amené à être plus humble, plus dépendant, plus pénitent, c'est une preuve que le Christ est en train de travailler. Le dernier point, c'est que comprendre ce mystère de Christ en nous empêche la vie chrétienne de sanctification d'être une affaire de discipline, démarche et bénédiction impersonnelle. Parce que cela nous montre que la sanctification est une personne avec qui je suis en relation. Christ ne doit pas être pour toi dans ta vie de sanctification un sauveur distant, un sauveur là-bas, qui va peut-être te filer des trucs pour vous aider. Ce n'est pas la vision de Paul. Le salut n'est pas recevoir quelque chose, mais quelqu'un. Ça veut dire que grandir en tant que chrétien, c'est pas utiliser une technique simplement. C'est avoir une relation avec une personne. C'est lui donner la place. C'est se confier en lui. C'est céder à lui. C'est penser à lui. Et dans ce relationnel, Christ prend de plus en plus de place dans notre vie. Bien sûr, il y a des disciplines, on mémorise des versets bibliques, on fait le culte personnel, on vient à l'église. Mais dans tout cela, nous savons que le mystère, c'est Christ lui-même. C'est Christ lui-même en nous qui a la sanctification. Si vous voulez, ma sanctification, c'est simplement Christ qui vient partager avec moi ce qu'il est. Ça devient beaucoup plus personnel. Et plus grand missionnaire en Chine de tous les temps s'appelait Hudson Taylor. C'est lui qui a ouvert tout le centre de la Chine à l'évangile, un homme spectaculaire. Il dit ceci à un moment donné, quand il a découvert un peu plus cette vérité que j'essaie de vous décrire aujourd'hui, une vérité qui prend toute la vie petit à petit à comprendre. Mais lui, il a eu un coup de pouce assez grand une fois, le Seigneur lui a ouvert les yeux et il a écrit à un ami en disant ceci: Recevoir le Seigneur Jésus, c'est la sainteté commencée. Chérir le Seigneur Jésus, c'est le progrès dans la sainteté. Compter sur le Seigneur Jésus comme étant toujours présent, ce serait la sainteté complète. Vous vous lamentez sur vos chutes, vos imperfections. Vous haïssez le péché, ce monstre qui veut vous dominer. Il y a pour vous en Christ un secours efficace. Ceux qui sentent le plus profondément qu'ils sont morts en Christ et qu'ils ont subi en sa personne le châtiment du péché atteignent le plus haut sommet de la vie divine. Celui-là est le plus saint qui possède le mieux Christ au-dedans de lui. Intéressant. Celui-là est le plus saint qui possède le mieux Christ au-dedans de lui, c'est-à-dire qui lui donne le plus de place, et qui se réjouit le plus complètement dans son œuvre accomplie. Dès lors, ne cherchant rien hors de lui, mais réjouissons-nous d'être nous-mêmes en lui, un avec lui, et par conséquent, un avec toute sa plénitude. N'attendons pas que la foi produise la sainteté, mais réjouissons-nous de la parfaite sainteté en Christ comme d'un fait. Réalisons qu'étant un avec lui d'une manière inséparable, cette sainteté est la nôtre et nous en constaterons la réalité de plus en plus. Nous allons prendre un moment pour prier le Seigneur de nous aider à comprendre cette réalité, ce mystère, Christ en vous, l'espérance de la gloire. On ne va pas chanter à la fin du culte parce que Nicky est dans l'école dimanche. On va juste finir avec ce moment de prière et je vais terminer à la fin. Prions Dieu.